explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac!
Puisque l'heure est au déconfinement, un déconfinement prudent mais plein de promesses, c'est avec enthousiasme que le temps d'un bivouac a quitté la maison de la radio pour installer son campement à la grande halle de la Villette à Paris, là où se tient pour tout le week-end le festival Mot pour Mot, un nouveau festival organisé par l'Obs, Le Monde, Télérama et France Inter pour fêter la littérature en compagnie de nombreux auteurs. Alors pour l'occasion, c'est un bivouac grand format que nous vous proposons, deux heures en compagnie d'écrivains et d'auteurs que le voyage inspire et qui vont nous emmener dans un tourbillon d'aventures maritimes, montagnardes, littéraires et musicales. Pour commencer, nous prendrons la mer avec Éric Orsena et Yann Kefelec. Nous évoquerons notamment la mémoire d'une grande navigatrice flamboyante et tourmentée qui nous a quittés prématurément en 2015, Florence Artaud. Et vers 14h45, nous ferons un voyage dans le temps, de Bonn à Vienne, sur les traces de Beethoven. En deuxième heure, changement de décor, nous tutoierons les sommets avec trois grands amoureux de la montagne, les écrivains Jean-Christophe Ruffin et Stéphanie Baudet, et un auteur-compositeur que l'on aime beaucoup à France Inter, André Manoukian. Avec André d'ailleurs, nous ferons un petit détour par les routes de la musique. Et tout au long de ces deux heures, nous accompagnera Fabienne Pascaud, la directrice de la rédaction de Télérama. Voilà pour l'équipage et les grandes étapes du jour. Cette émission a été préparée par Claire Tesser et Sophie Vaux. Elle est réalisée par Étienne Bertin avec l'aide d'Hélène Gouyoum-Jean. Soyez les bienvenus dans ce bivouac spécial en direct et en public.
Le temps d'un bivouac spécial, en direct du festival Mot pour Mot sur France Inter.
Autour de la table, pour ouvrir ce bivouac spécial, deux écrivains amoureux de la mer et de la Bretagne, Éric Orsena et Yann Kefelec. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, le goût pour la mer, la navigation et la Bretagne, ça vous fait déjà de sérieux points communs, Éric Orsena?
Ben, moi, je suis juste adopté, alors que lui, il est né là-bas, avec un père qui était un immense écrivain. Et puis, c'est vrai qu'une partie de ma famille était de Quimper, une autre est arrivée à Morlaix, et puis on avait une maison à Bréa, et puis, bref, à 8 ans, j'étais seul sur un bateau à voile, quoi.
Ouais, ouais, ça fait quand même déjà une bonne base. Yann Kefelec, vous vous sentez plus breton que Éric Orsena?
Non. La Bretagne, fort heureusement, ne fait pas ses comptes de cette manière-là. À partir du moment où on l'aime, où on respecte ses valeurs, on peut être breton à part entière sans forcément avoir du sang historique dans les veines. Donc moi, effectivement, je suis un enfant de Bretagne, un enfant des Averts. Je suis né dans une famille où il y avait des bateaux, donc j'avais presque un bateau sous les pieds lorsque je suis venu au monde. Et j'aimerais encore en avoir un, d'ailleurs, aujourd'hui.
Quand tu veux, hein, quand tu veux.
Ah, avec bonheur. Donc on en parlait tout à l'heure, Éric et moi. Plus le temps passe, plus nous sommes émerveillés par cette Bretagne.
Ouais, alors on aura l'occasion de prendre la mer, de repasser par la Bretagne et d'aller bien au-delà.
Et la mer monte et descend.
Avec nous également Fabienne Pascaud, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez la rédaction de Télérama et vous allez nous accompagner tout au long de ces deux heures de bivouac. Ce festival Mot pour Mot qui a ouvert ses portes à la Grande Halle de la Villette pour tout le week-end est porté par l'Obs, Le Monde, Télérama et France Inter. Comment est née l'idée de ce festival qui est tout nouveau, hein?
Oui, eh bien, c'est une idée qui vient du patron du groupe Le Monde, Louis Dreyfus, que nous avons accompagné dans dans ce qui semblait une utopie un peu folle au début. C'est-à-dire une grande rencontre des éditeurs, des écrivains, choisis par les rédactions des trois journaux, et qui soit une fête du livre après le confinement. Alors, il n'y a pas eu de salon du livre cette année, il n'y a pas eu vraiment de brassage entre le public et les auteurs, et on a voulu essayer de se lancer dans cette aventure, parce que pendant le confinement, les lecteurs ont prouvé qu'ils avaient besoin de lire, qu'ils aimaient lire, et je pense que les écrivains ont besoin de leurs lecteurs, parce que malgré tout, ouais, on écrit pour être lu, je crois.
Yann Kefelec, d'ailleurs, un peu plus tard dans l'après-midi, je crois que c'est à 18h30, il y a une rencontre à laquelle vous participez face à vos lecteurs. Là, nous sommes en public, on voit les allées du festival se remplir progressivement. Visiblement, il y avait une attente du public pour venir à la rencontre des écrivains. Est-ce que cette attente était partagée? Est-ce que ça vous fait plaisir de renouer avec vos lecteurs?
Ah, mais c'est un immense bonheur. Je souscris pleinement à ce que vient de dire Fabienne Pascaud. On écrit bien sûr pour être lu par le maximum d'amis inconnus que représentent les lecteurs. Mais c'est vrai que chaque fois que nous avons l'occasion de les rencontrer, en présentiel, je dis ça avec 36 milliards de guillemets de chaque côté, on comprend pourquoi on prend la plume, parce qu'on a affaire à des gens qui sont bouleversés par les livres et qui sont dans l'attente, comme ça, de ce contact extrêmement bref, quelquefois, avec les auteurs, où avec extrêmement peu de mots, on se dit beaucoup de choses, cette fraternité qui nous unit.
Une bonne partie de votre livre consacré à Florence Artaud, dont on parlera dans cette émission, a été écrit pendant le confinement, au moins pendant le premier confinement. Ça change quelque chose d'avoir écrit ce livre dans ce moment-là? D'ailleurs, vous faites référence au confinement et au virus dans ce livre qui pourtant n'est pas consacré à ça. Est-ce que ça a changé quelque chose?
Je ne fais pas référence. Je m'amuse de temps en temps à rappeler quand même que ce livre est écrit sur fond de Covid.
C'est ça. Vous racontez à Florence ce qui se passe, à Florence Artaud.
Oui, tout à fait, mais je ne veux surtout pas donc me positionner par rapport à ce Covid qui m'est complètement égal au moment où j'écris ce livre. C'est-à-dire, ça m'est égal sur le plan de mon livre. Ouais. Hein, c'est-à-dire, ça m'est pas du tout égal en tant qu'être humain. Et d'ailleurs, puisque vous me demandez ce que ça a changé pour moi, c'est qu'on passe d'une solitude choisie, la solitude de l'auteur, d'une solitude libre, à une solitude imposée dont on ne connaît absolument pas l'issue. Et c'est évidemment, ça a une influence considérable sur la manière de tenir sa plume chaque matin lorsqu'on s'attable. Moi, c'est vers 6h du matin. Je me disais, oui, c'est bien, j'ai du temps. C'est extrêmement silencieux dans Paris. C'est un silence très inquiétant. Il y a des gens qui meurent en ce moment, au moment où moi j'écris, où je vais vers Florence, qui, elle, n'est plus non plus. Voilà, mais j'ai adoré écrire ce livre malgré tout.
Et il est aussi très agréable à lire, même s'il est très émouvant et très touchant aussi. On aura l'occasion d'en parler. Éric Orsenna, est-ce que vous avez eu l'impression, vous aussi, pendant cette année et demie, de perdre un peu de vue vos lecteurs?
Oui, bien sûr, parce qu'on les rencontre très souvent, en fait. Et donc, comme dit Yann, moi, c'est exactement la même heure. C'est-à-dire, j'ai l'impression que l'écriture, c'est la continuation de la nuit par d'autres moyens. C'est-à-dire, on maîtrise un tout petit peu les rêves, à peine, et puis on écrit comme ça, avec obstination. Et puis après, on rencontre des êtres humains. Parce que pourquoi on écrit? Pour, au fond, agrandir l'humanité qui est en nous, et peut-être, très éventuellement, l'humanité qui est dans les gens. Donc si on est privé de ça, on est privé de, comme tu dis, c'est le mot qui me vient immédiatement, la fraternité. Et on a vu à quel point c'était essentiel. On pensait que non, finalement, on avait... Comme d'habitude, c'est quand quelque chose disparaît qu'on voit à quel point il vous manque.
Et la passion de la fraternité, c'est justement le titre.
Ouais, magnifique titre, au passage.
De super. Votre livre consacré à Beethoven, coédité par Stock et Fayard. Ce sera l'occasion de faire avec vous, en fin d'émission, en fin de première heure en tout cas, un voyage dans l'espace et le temps du côté de Bonn, de Vienne, sur les pas du célèbre compositeur. Pour cette discussion, nous rejoindra André Manoukian, qui lui aussi a des choses à dire.
Un maître
pour vous. Et vous étiez content de savoir qu'il était là, vous m'avez dit.
Et puis un promeneur de la musique, et puis un prof de musique, et puis c'est quelqu'un qui donne envie non seulement d'écouter, bien sûr, mais aussi de pratiquer. Car la culture, c'est pas de la conso. Et ce qu'on voit dans la lecture, c'est que tous les lecteurs qui sont ici, ils sont pour 50% dans le boulot. Puisque quand vous voyez un film, en gros, tout le monde voit le même film. Quand vous lisez un livre, chacun voit un livre différent. C'est ça ce que c'est.
Ah oui, celui qui écrit le livre ne lit pas le même livre que, n'écrit pas le même livre que celui qui le lit. Enfin, c'est une banalité, mais c'est évident.
Ouais. Et ça, c'est une chance ou parfois c'est un regret, Yann Kefelec?
Ah non, c'est absolument pas un regret. Moi, le fait que le lecteur soit co-auteur du livre que j'ai écrit, ça me bouleverse, au contraire. Chacun construit son livre avec son histoire, avec sa mémoire, sa sensibilité. Et c'est vrai que l'écrivain, quand même, a ce pouvoir de mettre entre les mains du lecteur une histoire dont il fera la sienne et qui sera unique au monde.
Allez, c'est parti pour ce temps d'un bivouac spécial en public et en direct de la première édition du festival littéraire Mot pour mot à la Grande Halle de la Villette. Et dans un instant, nous allons embarquer pour des aventures littéraires et maritimes avec nos invités.
L'histoire d'un Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terre miné sera notre histoire. Oh, terminé de douter pour une fois.
Kitoko na yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga.
Histoire d'amour, histoire d'amour. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée. Je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire.
Nako kovanda kinyate, mokili ebongi eyeba, bolingo yanga na yo sukaseliwa.
Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, 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 histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. Oh, oh, oh. Alléluia, Ave Maria. Femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie. Oh, c'est le roi loin d'Haïti.
C'était Histoire d'amour de Gaël Faye.
C'est superbe.
Et sur le, d'ailleurs, vous avez dansé, hein, Eric Orsena, hein, là-dessus.
Ouais, je suis fou de ça. C'est fou. D'abord, Faye, il est immense, ouais. Parce qu'il est partout, dans tous les domaines, comme ça, des arts qui fleurissent, qui échangent. Et puis, alors, je vous conseille un disque que j'ai réécouté, qui s'appelle Gracias a la vida, de Mercedes Sosa et Joan Baez.
C'est génial parce qu'il est jamais pris en défaut, Eric Orsena, sur tous les sujets. Oh bah. Il démarre. Temps d'un bivouac en direct et en public à la Grande Halle de la Villette à Paris, où se tient la première édition du festival Mot pour Mot, avec des libraires, des lecteurs et des écrivains en tout genre. Et nous en avons invité deux exemplaires qui aiment naviguer.
Oh non, Yann... Deux exemplaires d'écrivains, c'est formidable. Il y a une étiquette avec le prix.
Oui. Ils n'étaient pas au rabais. Hein. On a Eric Orsena et Yann Kefelec avec nous, qui sont très heureux de se retrouver. Deux écrivains de Marine.
Ah oui, on s'aime beaucoup. Hein.
Qu'est-ce que c'est que ça, les écrivains de Marine? D'où ça sort, ça? Ça, c'est sur l'étiquette. Vous êtes écrivain de Marine.
Non seulement on est écrivain de Marine, mais on est capitaine de frégate. On a reçu des médailles récemment, oui. par laquelle la marine nous confirme dans notre rôle de capitaine de frégate. On en est très fiers. C'est un corps de la marine fondé par Jean-François Dogneau au début du XXIe siècle et qui réunit une vingtaine d'auteurs repérés par la marine pour leur amour de l'écriture et de la mer, naturellement.
Je crois que dans l'eau, il y a aussi Jean-Christophe Ruffin, qui est avec nous dans le public.
Il a essayé d'en sortir, Jean-Christophe.
Il a essayé.
Et puis, on a refusé qu'il sorte.
Il acquiesce.
Mais il est là au titre de la biodiversité, parce qu'autrement, il n'y a que des marins. Il fallait un sur 20 qui soit de la montagne. Ça, c'est lui. Ouais.
On se rattrapera.
C'est l'exception. Oui.
On ira en montagne avec vous. Le goût de la mer, comment est-il venu? Alors, vous nous avez dit, Yann Kefelec, vous, c'est dès l'enfance, vous êtes né avec le...
C'est le goût du lait, tout simplement. moi je têtais ma mère en regardant la mer. Hein. J'ai d'ailleurs cessé le cas de le dire. Donc je fais pas grande différence à l'origine entre ma mère, la mer, l'odeur de la mer, l'odeur de ma mère, l'odeur des nourrices comme ça qui me gardaient face à l'océan. C'est venu de cette manière extrêmement charnelle et ça n'a jamais changé.
Mais au point que vous rêviez de consacrer votre vie à la voile, vous avez construit un bateau.
Ah ouais, moi je voyais la vie comme un grand voyage en voilier autour du monde. Et finalement, j'ai fait un grand voyage sans voilier autour de l'imagination et voilà. Et je suis heureux quand même.
Oui,
mais
vous
ça
avez
me
l'air.
Manque énormément de ne pas être devenu une espèce d'Henri de Montfred, voilà, autour du monde sans cesse.
Vous, Éric Orsenna, dès votre plus jeune âge, vous vous penchez sur les cartes des atlas, vous imaginez des expéditions, vous allez même jusqu'à consulter les catalogues de matériel pour faire des listes de matériel, des fausses commandes pour des expéditions imaginaires.
Bah, 10 mois par an, j'étais à Paris. Donc à Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut consulter une carte pour savoir quand on va se tirer de Paris. Et puis 2 mois par an, j'étais au bord de l'eau. Et alors, au bord de l'eau, c'était très intéressant parce que on est dans un endroit, la Bretagne Nord, où il y a des marées. Vous savez les marées
quand, ah, faut pas les oublier,
quand
les marées.
Ça monte et ça descend.
Ouais.
Une vraie mer. Je ne vais pas être méprisant avec d'autres mers fermées ouais. où ça bouge pas.
Vous êtes en train d'attaquer les Méditerranéens
mais,
là, je me trompe.
Et ben, non, mais pas du tout. Je les aime toutes. Mais c'est vrai que là, vous arrivez à Paris, où rien ne bouge, vous voyez pas le temps passer. Ouais. Et là, nous, en 6 heures, il peut y avoir 11 mètres d'écart entre marée haute et marée basse.
Ah oui. Donc, et dites, ce sont des mondes entiers qui changent.
Eh ouais. Sans arrêt, le paysage change. Ouais. Je me disais, qu'est-ce que c'est la règle de la vie? C'est l'instable. Ça n'a pas facilité ma vie personnelle, mais ça fait rien. Je vous en parlerai un autre jour.
Oui, on fera une émission plus longue sur ce thème, Éric Orsenna, si vous êtes d'accord. Et le goût des mots et des lettres, comment est-il venu? Alors, je crois pour vous, alors vous écriviez hein, parallèlement à vos envies de mère, Yann Kefelec.
Mais j'avais le goût des mots bien avant. Le goût des mots, c'est inné ou c'est pas la peine de s'y coller jamais. Enfin, moi, j'ai aimé les mots comme j'aimais la vie, comme j'aimais respirer, comme j'aimais la mer, et je n'ai jamais pu m'en passer. Je les aime de plus en plus, d'ailleurs.
Oui, 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 et vous nous les faites aimer. Et c'est vrai, cette histoire, cette rencontre avec Françoise Verny, la papesse de l'édition, qui vous aperçoit sur votre bateau et qui vous dit...
C'est rare de rencontrer un pape sur un quai, surtout un pape au féminin, donc c'est une histoire totalement, totalement exacte. J'étais parti pour une sorte de voyage d'expédition très lointaine à Sao Tomé. J'ai dû faire demi-tour, le mauvais temps m'a rabattu sur Belle-Île en mer en pleine nuit, dans la bourrasque. Et au moment où j'amarrais mon bateau sur le quai, Françoise Verny.
Très chérie, tu as une gueule d'écrivain.
J'ai jamais compris ce qu'elle foutait sur le quai à cette heure-là, au milieu de. Avec un cabas rempli de manuscrits. Et à partir de cet instant, je n'ai plus pu me passer d'elle.
Mais elle vous dit, t'as une gueule d'écrivain à ce moment-là, ça vous conforte dans l'idée que
elle
vous êtes pour
dit,
ça.
Elle me dit, toi chérie, tu as une gueule d'écrivain.
Et
il y a des témoins, il y avait d'autres
mais
témoins.
C'est vrai, il a une gueule d'écrivain.
Ça veut rien dire, une gueule d'écrivain. N'importe quel
talent. Toi, t'as une gueule d'écrivain, moi j'ai une gueule de cake, toi t'as une gueule d'écrivain.
Oui, mais le cake écrivain.
Ah bah, le cake avec des cerises.
Éric Orsenna, pour vous, au-delà de cette considération physique, c'est les histoires que votre père vous racontait qui vous ont donné ce goût.
Mon père était officier de marine, oui, de réserve dans l'aéronavale. Donc il me racontait des histoires. Et donc il y avait sans arrêt des histoires de sous-marins, des histoires de pirates. Et puis on était là 2 mois par an. Donc on nous racontait des histoires incroyables. Et pour moi, écrire et naviguer, c'est pareil.
Ouais.
Pour une raison précise qui est la raison de la liberté, c'est que sur mer, comme sur la page blanche, il n'y a pas de chemin. Vous devez le créer. Et donc, je me suis dit, tiens, la liberté, c'est ça, avec ses magies et ses vertiges. Ouais. Donc, c'était pareil. Naviguer, écrire, c'est pareil. Quand j'ai eu la chance de naviguer longtemps avec Isabelle Autissier, comme ça, 2 mois, c'était vraiment la même chose. Il y avait un quart, au fond, où j'étais responsable de la barre, et puis un quart où j'écrivais.
Je suis pleinement d'accord avec ce que dit Eric, et ce que j'observe aussi, c'est que la page blanche, c'est minuscule. Et c'est aussi vaste qu'un océan. Et c'est un océan carré, ou enfin rectangulaire. Mais c'est, moi, j'ai vraiment l'impression d'une immensité océanique à chaque fois que
On peut se noyer dans l'écriture d'un livre.
Oh, bah, sans aucun problème. On peut se noyer dans l'écriture d'une phrase. On se noie régulièrement et on se dénoie et on se renoie.
C'est vrai.
Et c'est mouvementé.
On a tous des exemples et on a tous des noms.
Oui, parce qu'il y a des noyés qui n'ont jamais fait compte.
Je parlais d'écrire vos livres, pas vous noyer dans les livres des autres. Fabienne Pascoe, vous nous avez fait l'honneur d'accepter le rôle de chroniqueuse exceptionnelle dans ce bivouac spécial. Et vous vous êtes intéressée justement à la façon dont la mer avait inspiré les écrivains par le passé.
Oui, mais alors inutile de vous dire que je suis très impressionnée de me lancer dans cette chronique face à deux amoureux de la mer aussi experts dans la chose marine que Eric Orsenna et Yann Kefelec, qui a d'ailleurs écrit un merveilleux dictionnaire amoureux de la mer il n'y a pas si longtemps. Donc enfin, bon, je me lance.
Allons-y.
Après tout, la critique de théâtre que je suis aussi a goûté à la tragédie grâce à l'antique guerre de Troie, revue et corrigée par Eschyle dans l'Orestie, cette fameuse trilogie des Atrides où la mer et le vent sur cette mer décidèrent de l'avancée de l'armée grecque et du terrible sort des Troyens. Des Grecs, tel Ulysse, des Troyens, tel Énée, qui n'en finirent plus, après la débâcle du roi Priam, d'errer sur les flots. Ça nous a donné l'Odyssée et l'Énéide. Alors je me suis demandé si c'était pas la tragédie grecque, finalement, qui la première avait fait de la mer une vedette. Et le théâtre qui avait le premier sacralisé, celle par qui tous les drames alors arrivaient, les épreuves et la rédemption aussi.
Mais alors, il n'y avait rien eu d'autre de notable avant la tragédie grecque ?
Il y avait eu la Bible, quand même.
Ouais.
Il y avait eu le déluge, il y avait eu les exploits de Moïse, le seul capable de couper la mer en deux. Mais quand même, moi, je maintiens que les maîtres du théâtre occidental ont toujours su, mieux qu'aucun autre, en faire l'élément de déclencheur de toutes les folies. Alors, vous allez me dire qu'avant, il y a eu les romantiques, il y a eu Bernardin de Saint-Pierre et son Paul et Virginie, Virginie mourant dans les flots, il y a eu Chateaubriand tout au long de son œuvre, où l'immensité, la profondeur, la majesté de l'océan reflètent sans fin tourments intérieurs et sens du sacré. Il y a eu Victor Hugo, bien sûr, qui pendant ses 20 années d'exil politique à Jersey, puis Guernesey, s'est trouvé face à l'océan et en a fait la grande affaire de sa vie, a fait de la mer sa compagne, son inspiratrice, son objet de contemplation quotidienne, la patrie de son génie, la respiration même de sa prose, comme dit Simon Less. Là, je vais aussi révéler mes sources. Simon Less a écrit une formidable anthologie, La mort et la littérature française, hein, qui a été rééditée il n'y a pas longtemps aux éditions Bouquin.
Mais avant Chateaubriand, avant Hugo, avant Baudelaire, il y a un nom aussi que vous n'avez pas cité chez nous.
Il y a Shakespeare.
Eh oui.
Eh ben oui, Shakespeare, encore un auteur de théâtre. Sa dernière pièce, La Tempête, son testament philosophique, politique, métaphysique. Où est-ce que ça se passe ? Ben, ça se passe sur une île, après un naufrage. Et vous pensez qu'Hamlet aurait les problèmes qu'il a s'il n'était pas face à l'océan, dans le château d'Elseneur, en proie aux doutes, aux angoisses métaphysiques ? Alors, la mer, elle a le grand rôle chez Shakespeare et puis chez Racine. Phèdre, la pièce phare de Racine, eh bien, ça se termine. Hippolyte, l'amoureux de Phèdre, meurt dévoré par le monstre des océans. Et puis, un de mes auteurs préférés, Claudel. Paul Claudel, la mer, encore une fois, et tout au long du partage de midi, de l'échange et du soulier de satin même, la mer, c'est celle qui provoque la rencontre des amoureux et leur séparation, la jouissance et la douleur.
La mère est une bonne actrice, alors.
Ah, la mère, c'est non seulement une actrice, mais c'est une tragédienne admirable, capable d'incarner tous les rôles, servante et maîtresse, sainte et putain. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment les dramaturges contemporains ne s'en inspirent plus. Est-ce qu'elle a changé, la mère ? Est-ce qu'elle n'est pas toujours aussi mystérieuse, aussi inquiétante, aussi redoutable ? Penserait-on désormais, comme Monsieur Prudhomme, moi j'adore cette phrase de l'écrivain Henri Monnier au XIXe siècle, « Une telle quantité d'eau frise le ridicule, et encore on n'en voit que le dessus.
» C'est à hurler de rire, ça veut dire. C'est lui qui est ridicule, mais c'est à hurler de rire.
Moi, ça me fait rire.
Ouais, c'est très... Moi aussi, ça me fait rire.
Mais je pense qu'il faut avoir le courage dans les romans, dans la poésie et au théâtre pour s'affronter à ce violent miroir de notre âme, de notre petitesse face à la nature et à l'énigme de la création que reste la mer. Et peut-être, peut-être n'est-on plus assez sûr de nous-mêmes, de nos identités morcelées, fragilisées, fragmentées, pour oser côtoyer aujourd'hui sur scène la mer, pour oser en être environné.
Merci Fabienne Pascot.
Ouais. Voilà.
Yann Kefelec lance les applaudissements. Une réaction, Yann Kefelec, à tout ce qui a été dit. C'était riche.
Oui, si, c'était passionnant. Alors, si, moi, ce qui m'étonne, je pense qu'Éric s'en étonne aussi, c'est que la mer, en littérature, soit une espèce de... Il y a une étroitesse du créneau marin.
Ouais.
On est écrivain de la mer et tout de suite, on a un petit secteur comme ça sur les rayons, comme si c'était réducteur, alors que c'est exactement le contraire. Alors, quand vous disiez tout à l'heure que nous étions des écrivains de marine, moi, j'accepte l'étiquette, mais ça ne me plaît pas tellement. Moi, je suis un écrivain, et puis il y a la mer. Je suis pas un écrivain de marine, je suis un écrivain de cet universel invraisemblable, extraordinaire, qui est incarné par cette formidable quantité d'eau que d'aucuns trouvent ridicule.
Mais... Fabienne.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un langage spécifique
de la mer,
il y a un vocabulaire. Il n'y a pas la même chose, il n'y a pas la même richesse pour la montagne dont on va parler tout à l'heure.
Oui, mais nous,
exemple.
On s'en abstrait, Eric. On cherche.
Oui, il y a la même, on ne comprend rien. Et puis, l'avantage de la mer par rapport à la montagne, c'est qu'à part.
On est bien barré, là.
À part s'il y a des vagues, mais les vagues, au maximum, elles font 20 mètres. Alors que la montagne, ça peut être 4000 mètres, 5000 mètres. Donc moi, en mer, même dans les tempêtes, j'ai pas le vertige. Et jamais, Jean-Christophe, que vous allez entendre tout à l'heure, jamais il pourra m'entendre parce que j'ai le vertige. Comprenez? Donc la mer, elle est plate. Puis quand même, la mer, c'est les trois quarts de la planète. Donc il faut quand même se monier, là. C'est
non, mais pour ce qui est du langage, comme ça, qui est un peu déroutant pour ceux qui ne connaissent pas ce langage, un véritable écrivain de la mer, un véritable écrivain qui a envie d'entrer en contact avec son public, s'arrange pour ne pas le noyer dans une terminologie qui est réservée à quelques experts.
Ouais.
Ouais, franchement, j'ai aucune envie de ne pas être compris.
Mais Yann Kefelec, ce qui vous intéresse le plus, finalement, c'est pas tant la mer que ceux qui vivent auprès de la mer, les marins, les pêcheurs. C'est aussi ce monde-là dont vous avez envie de nous parler.
Non, c'est l'homme, tout simplement. L'homme dans ce qu'il devient en contact avec la mer. Je me méfie beaucoup des écrivains de la mer. D'ailleurs, ils sont extrêmement rares, les écrivains de la mer. Celui qui commence à décrire la mer se plante dans presque tous les cas. C'est très difficile. Et ça n'offre aucun intérêt, d'ailleurs, de décrire la mer. Ce qui est passionnant, en revanche, c'est de décrire l'émotion de quelqu'un face... pris dans les éléments, quels qu'ils soient.
Vous dites, j'écris moins sur la mer que sur les questions qu'elle pose. Quelles questions vous pose la mer?
Moi, je ne sais pas, elle me pose des questions, moi, je n'ai pas envie de... C'est privé.
Vous vous en sortez bien.
Il a complètement raison. Les gens qui décrivent la mer, c'est comme les gens qui décrivent la musique.
Voilà,
enfin, c'est pareil, quoi. Parce que, et la mer et la musique se ressemblent à un point, mais tellement fort. Parce que la mer et la musique, c'est la patrie des métamorphoses. C'est-à-dire, il y a une sorte de liberté, comme ça. On enchaîne toutes les formes. Donc, nous, on est assignés à notre résidence. Et là, on voit deux grandes forces immenses qui se développent, comme ça, qui enchaînent les thèmes. Et qui enchaîne, voilà, comme vous disiez très très bien, au moment c'est calme, l'instant d'après c'est la tempête, ça revient au calme, mais c'est annonciateur des grands vents, des alizés qu'on croit lisses, l'origine du mot alizé, et en fait pas du tout, il y a les orages qui se mêlent dedans. C'est ça la mer.
Et ça n'a aucun sens de dire la mer, ça n'a aucun sens de la dire. À partir du moment où on a la mer sous les pieds, où ça bouge, Ça vous coupe la parole. On n'a plus rien à dire. Alors après, dans son bureau, en plein confinement, commence à se... Tiens, je vais me faire une petite tempête ce matin, mais c'est absurde.
Vous allez voir, on a encore plein de choses à se dire. Nous allons reprendre la mer dans un instant avec vous, Yann Kefelec, dans le sillage d'une navigatrice que vous considériez comme votre sœur d'affinité, Florence Artaud. Vous lui avez consacré votre dernier livre, La mer et au-delà, chez Calman Lévy.
The blue, I like the green, I don't like to choose between. I like the two, you see what I mean. I like the blue and all the colors I've seen. I like the blue sky and the sea. I like, I do, I like this tree. I'm a crazy. Orange is nice, and so is yellow. Can't make my choice from my window. No better is no. I like to be, and I like the white light of the moon. I like the black night coming soon. Am I a loon? Oh yeah. Singing in my bedroom.
Mathieu Bogart sur France Inter, Am I Crazy?
Le temps d'un bivouac spécial. En direct du festival Mot pour Mot sur France Inter.
Et autour de la table de ce temps d'un bivouac spécial, il y a Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de Télérama, et les écrivains Éric Orsenna et Yann Kefelec. Yann Kefelec, votre dernier ouvrage s'intitule La mer et au-delà, aux éditions Kalman Levy. C'est un hommage à la navigatrice Florence Artaud, que vous connaissiez bien. C'est un livre très personnel, hein, dans lequel vous racontez la vie de la navigatrice, ses victoires, ses démons, ses excès. On découvre la navigatrice à travers votre regard. C'est pas une biographie au sens habituel. Vous nous parlez des discussions que vous aviez avec elle. Plus qu'une amie, vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, plus qu'une amie, vous la considériez comme une sœur d'affinité. Qu'est-ce que vous partagiez avec Florence Artaud ?
Alors une sœur, c'est pas forcément plus. Hein, les choses se passaient comme ça. On partageait une espèce d'intimité avec l'amour de la mer, tout simplement. Quand on se voyait, on était pleinement d'accord sur nos manières de vivre en contact avec l'océan, sans très bien savoir d'ailleurs comment en parler. Donc Florence me disait régulièrement. D'abord, comment j'ai connu Florence Artaud?
Ouais.
Je l'ai connue, je savais pas qui c'était. Je venais d'avoir le prix Goncourt, j'avais un magnifique bateau, je me prenais un peu au sérieux, il faut bien le dire. Ouais. Et j'embarque sur mon bateau une jeune femme accompagnée d'un monsieur que ma petite amie occasionnelle de l'époque, parce que sur les beaux voiliers, on a souvent des petites amies occasionnelles quand on est jeune. Eh bien, cette petite amie considère que l'homme avec qui a embarqué Florence Artaud, c'est Franck Provost. Donc moi, pendant plusieurs heures, je me suis dit que voilà, que j'avais un grand coiffeur à bord de mon bateau, avec sa petite copine occasionnelle, probablement.
On est du côté d'Ajaccio en Corse, quand tout ça se passe.
On est tout à fait du côté d'Ajaccio encore. Jusqu'au lendemain matin, où je vois arriver sur mon bateau une équipe de France 3. Je me dis, ils arrivent pour moi, c'est bien, c'est formidable. Ils savent que je suis dans les parages. Et en fait, non, ils viennent interviewer ce monsieur. Et je me dis, tiens, c'est bizarre qu'on consacre un JT à ce grand coiffeur. Enfin, pourquoi pas. Et en fait, il s'agit de Pierre Bachelet et de Florence Artaud qui portaient des petites nattes à ce moment-là.
Ouais. Sur mon... Florence Artaud, pas Pierre Bachelet, pour les petites nattes.
Bravo, félicitations.
Je précise.
Et Florence venait de remporter triomphalement la route du Rhum et je ne l'avais même pas. C'était une star mondialement connue et je ne l'avais même pas. Voilà.
Ouais.
Donc on en a reparlé ensuite, on s'est retrouvés régulièrement et c'est vrai que nous étions en fraternité. C'est vraiment l'expression. Nous étions un peu fous tous les deux. Ouais. Nous vivions les instants à tombeau ouvert lorsque la nuit tombait. Personne ne pouvait savoir ce que nous allions devenir au cours de cette nuit. Et j'adorais ça chez elle, cette folie, cette pureté, cette intransigeance et cette forme de perdition qu'elle transportait avec elle partout, tout en ayant la volonté de construire quelque chose de grand face aux hommes.
Alors, une vie mou, on va y revenir hein, au rapport
non,
avec
non,
les
sais,
hommes.
Non, mais je sais, je me perds un peu.
Non, pas du tout. Une vie mouvementée, cabossée, avant l'accident fatal, l'accident d'hélicoptère qui lui a été fatal en 2015, elle a frôlé la mort à plusieurs reprises. Il y a un grave accident dont vous parlez, un accident de voiture à 17 ans, qui a joué pour mais beaucoup tout, dans
tout,
le reste.
Toute sa vie, c'est une sorte de fuite devant un destin qui la poursuit et qui lui rappelle par des accidents qu'elle est visée, qu'elle est dans son collimateur. Et j'ai pas été particulièrement surpris, malheureusement, lorsque j'ai découvert à la télévision ce qui lui arrivait là, en Argentine. Parce que lorsque sa mère, par exemple, la survole en hélicoptère, un jour où elle vient de traverser l'Atlantique, Florence est en train de bricoler en haut du mât, au moment où sa mère passe avec l'hélicoptère, eh bien, Florence tombe du mât, mais à pic, elle va exploser sur le pont de son bateau. À ce moment-là, une drisse se prend dans sa jambe et à la dernière seconde, elle est sauvée. Elle n'a cessé d'avoir des accidents.
Et il y a une histoire, mais qu'on croirait tout droit sortie d'un film qui paraît presque incroyable. Elle tombe à la mer.
À la mer au large de la Corse en pleine nuit, rétablissant son équilibre hydrostatique, comme disait mon père, c'est-à-dire pour un besoin naturel. Elle regarde son bateau s'éloigner dans la nuit, c'est ce qu'il y a de pire, hein, c'est arrivé à Tabarly, avec la musique de la radio, avec son chat qui miaule et qui s'attend à ce qu'elle remonte à bord. Elle se dit c'est terminé, voilà, elle n'a plus qu'à se dévêtir pour essayer de prolonger les instants. Et au moment où elle ne veut pas retirer ses bottines roses qu'elle vient d'acheter parce qu'elle a une espèce de coquetterie de dernière seconde vis-à-vis de ses chaussures, c'est une fille très fifille. Et au moment où elle ôte sa veste de car, elle s'aperçoit qu'elle a son portable avec elle, ce qu'elle ne fait jamais.
Ouais.
Et elle, téléphone. Avec un portable, sans réseau, sans batterie, elle parvient quand même à téléphoner et à établir un contact avec le continent et elle sera sauvée.
Mais pardon, quand même, ça veut dire qu'elle a sa, elle est en pleine mer, en perdition, et elle a sa mère au bout du fil.
Sa mère qui lui dit, quelle est ta position? C'est une phrase absolument inouïe, comme oui. C'est vraiment une mère extraordinaire. On lui dit, ma pauvre chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est ta position? Et à ce moment-là, elle la met en contact avec son frère, qui parvient à prendre contact, lui, avec des secours.
Avec quand même un moment terrible où elle entend son propre frère dire, c'est foutu.
Son frère parle à sa femme et elle entend dire, c'est foutu pour Florence. C'est foutu pour Florence. D'ailleurs, elle accepte la mort. Elle parle de la mort comme ça qui entre dans ses narines, de grandes pièces comme ça qui s'ouvrent dans sa tête. Elle pense qu'elle meurt et elle est arrachée par les cheveux de manière très romantique, par un pompier sur une échelle de corde. Évidemment, il y a un hélicoptère au-dessus de l'échelle de corde et elle est sauvée.
En vous lisant Yann Kefelec, on a l'impression que Florence Artaud est un personnage de roman. C'est ainsi que
c'est un personnage de
vous
roman,
la voyez comme ça.
Mais bien sûr, moi. Je me suis aperçu quand elle est partie que je ne la connaissais absolument pas. Elle baratinait dans les micros comme c'est pas possible. Et elle avait toujours quelque chose à dire sur tous les sujets de l'époque. Et sur elle, on ne savait strictement rien. Et alors, moi, j'ai eu beau comme ça m'entourer de toute une documentation pour écrire ce livre. J'étais totalement perdu devant l'inconnu que représentait Florence, et je me suis permis de faire de cette personne un personnage sans jamais m'aventurer dans des jardins secrets où elle-même, je pense, ne s'aventurait pas non plus.
Alors c'était une navigatrice, Florence Artaud, dans un monde essentiellement masculin. Elle évoquait, et vous en parliez, vous commenciez à aborder le sujet, elle évoquait son rapport avec les autres marins au micro d'Yves Calvi en 2009 sur France Inter.
Moi, j'ai tout de suite été bien accueillie parce que, comme je dis tout le temps, je crois qu'il y a plus de machos sur terre que sur mer. L'homme, le marin, c'est pas un macho. Et en plus, il y a une grande famille de marins, qu'on soit pêcheur, marin au long cours, ou dans la Royale, ou navigateur, ou simple plaisancier. Le fait d'être marin, d'être sur l'eau, les marins vous reconnaissent comme marin dans la mesure où vous avez fait vos preuves. Et ils savent très bien ce que vous vivez, les souffrances que vous endurez, donc ils vous respectent. Tous les marins que j'ai côtoyés pendant toutes ces 30 années de course, c'est mes frères. On est amis comme dans une fratrie, quoi. Que ça soit Poupon, Kersauzon, tous ces gens-là, c'est le monde que j'ai côtoyé pendant 30 ans. Ils sont toujours là.
C'est un grand privilège, hein.
Ben c'est belle, c'est des belles amitiés. Ouais. Au bout de 35 ans et qu'on a toujours cette fraîcheur dans l'amitié, c'est joli.
Dans votre ouvrage, Yann Kefelec, vous semblez dire que Florence Artaud n'a pas toujours été considérée avec autant d'égard et de respect qu'il en aurait fallu.
Elle changeait d'avis comme de chemise au sujet du marin macho, pas macho, gentil avec les filles. C'est pas vrai. Elle n'a pas été très très bien vue par les hommes. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, ils lui en ont un peu voulu d'être meilleure qu'elle sur leur terrain de jeu. Ça s'est retrouvé dans la confiance que refusaient de lui accorder les mécènes, parce que ils trouvaient que la comédie avait assez duré, qu'elle avait assez gagné comme ça contre les meilleurs. Peut-être, d'ailleurs, est-ce aussi cette tristesse qui a emporté Florence Artaud, parce qu'elle a été obligée de gagner de l'argent dans des conditions qui n'étaient pas très glorieuses.
Vous parlez de cette émission de télé-réalité
tout à fait,
dans laquelle l'hélicoptère s'est crashé.
Elle disait qu'elle réunissait des fonds comme ça pour mettre au point sa grande course, l'Odyssée des femmes, uniquement des femmes, voilà, du monde entier, venant dire ce que c'était que d'être une femme dans le pays où elles étaient. Ce qui en dit tout de même long sur la relation de Florence Artaud avec le monde masculin. Je t'en prie.
Éric Orsenna. Imaginez pour Florence Artaud, d'avoir besoin de la télé pour expliquer ce que c'est que la réalité, alors qu'elle était un chevalier de la réalité. Et moi, ce livre est complètement bouleversant parce que je l'ai aussi connu. J'ai un peu navigué avec elle, parce qu'on a fait juste un petit tour de bray avec elle, mais je voyais le marin que c'était. Et donc, c'est ça la mer. C'est comme c'est ceux qui pensent qu'ils sont plus forts que la mer, mais c'est des cons qui sont des terriens. Elle est évidemment bien plus grande que nous, bien plus forte. Quand on a été jusqu'au bout, en marge du dragon... Eh ben, on se respecte parce que on est forcément humble, ce qui n'empêche pas d'être obstiné.
Éric Orsenna, vous avez aussi navigué avec une autre grande navigatrice. Vous le rappeliez en début d'émission, Isabelle Autissier. Vous êtes allé sur un voilier en Antarctique avec elle. Quel souvenir vous gardez de cette traversée?
D'abord, peur, puisque elle avait ce projet, mais son projet c'était de faire un grand bateau. Donc le bateau, il devait faire 50 mètres, on devait faire un opéra de l'Antarctique, tout ça, etc. Puis chaque année, comme elle n'avait pas de budget, le bateau diminuait. Et puis elle m'a dit à un moment donné, voilà, j'ai un bateau. Et alors, blanc comme l'Antarctique, j'ai dit, mais combien il mesure? 16 mètres. Alors je peux vous dire qu'avant de partir, j'ai fait le check-up le plus sévère en suppliant les médecins de me trouver quelque chose. Et puis ils m'ont rien trouvé, donc je suis parti. C'est le plus beau voyage de ma vie.
Et Isabelle Autissier, quel souvenir garde-t-elle de vous, Éric Orsenna, sur ce bateau? Le mieux, c'est de l'écouter raconter.
Éric, il a quelque chose de génial, c'est qu'il est toujours content. Alors ça, c'est un excellent compagnon de voyage, les gens qui sont toujours contents. Il a cette curiosité et ce bonheur de découvrir, de comprendre, de regarder, de s'extasier. Et après, ce qui a été génial, c'est qu'au bout de 2 ou 3 jours, parce que quand même, on allait en Antarctique, dans des mers difficiles, c'est un peu violent, c'est un peu physique, etc. Il fait froid, le bateau est un peu gros et tout. Et au bout de 2 jours, Éric, il vient me voir, il me dit... Tu sais, les manœuvres, moi j'ai du mal, c'est un peu physique, je me sens pas toujours et tout. Je lui dis, c'est pas un problème, on est de quart ensemble, moi je peux le faire, et puis toi tu vas plus barrer ou plus faire autre chose. Il dit, mais tu sais, j'ai pensé à un truc que je pouvais faire. Alors je lui dis, ah oui, c'est quoi? Il dit, la vaisselle. Et voilà, Éric, il a fait la vaisselle pendant 6 semaines, matin, midi et soir. C'est chic, hein, quand un académicien fait la vaisselle, c'est très chic. Il a fait d'autres choses, hein, bien sûr.
Isabelle Autissier dans le Grand Atelier en 2017. Alors, vous avez fait la vaisselle comme ça, Éric?
Oui, moi, j'ai cette chance pour l'instant. Ça peut arriver n'importe quand. J'ai la chance de ne pas avoir le mal de mer. Donc, voilà, je faisais les trucs que les autres ne faisaient pas trop, quoi. Et puis, voilà. Et puis, elle dit les manœuvres. Mais il faut dire que son bateau, c'est un bateau super lourd, super lent. Et donc, moi, honnêtement, il me faisait chier. Donc, parce que moi, j'aime bien les bateaux un peu pointus, qui vont un peu vite, qu'on met le truc et
d'accord,
tout ça.
D'accord, bon, on lui dira. Ça fera un nouvel extrait à diffuser quand Isabelle Autissier viendra.
Elle le sait. Et alors, elle m'a donné des leçons, parce qu'elle m'a donné des sons de nature. Ouais. Et vous savez ce que c'est l'émotion, la première fois. D'abord, quand vous allez au sud du Cap Horn, franchement, c'est déjà quelque chose. Parce qu'il y a un des trois qui s'appelle le Drake. Le Drake, avec son bateau silent, il y a 5-6 jours. Et on sait, la météo, on la connaît pas. On peut se prendre un baston à 100 nœuds. 100 nœuds. Hein? Bon. Donc, imaginez ce que c'est.
200 km/h pour les intimes.
Donc, comme ça. Donc, voilà. Et quand brutalement vous arrivez et vous voyez après 5 jours le premier iceberg qui est bleu à cause des pressions particulières de l'oxygène dans la glace, vous dites, et j'ai été là avec les immenses qui vous ont précédé. C'est ça la mer quand même. La mer, c'est être plus grand que soi-même. Quand on fait 1m73, il vaut mieux s'y prendre tôt pour être plus grand de soi-même, quoi.
Allez, on quitte la mer pour d'autres aventures. la cinquième symphonie de Beethoven, auquel vous consacrez votre dernier livre, Eric Orsenna, La passion de la fraternité, Beethoven, aux éditions Stockfeyer. Est-ce que ce que l'on entend là correspond bien à une mère déchaînée, pourrait illustrer une mère déchaînée?
Et alors, c'est marrant parce que Beethoven, d'après ce qu'on sait, n'a jamais vu la mer.
Ouais.
Et le cœur de son œuvre, c'est la symphonie. C'est-à-dire mettre ensemble tout ça. Et beaucoup d'écrivains, genre Romain Rolland, etc., ont dit que
une
partie de son œuvre, en tout cas, est complètement océanique. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments, symphonie, tous les sons réunis, et c'est la mer qui vous emporte. Avec, comme disait Fabienne, c'est-à-dire des moments calmes, et puis ça se déchaîne à d'autres moments, et puis ça redevient calme. Écoutez ça.
C'est comme la mer, on ne s'en lasse pas.
pour cette discussion sur Beethoven, André Manoukian nous a rejoint. Bonjour André.
Bonjour, quelle entrée sur Beethoven. On dit, j'entends la cinquième, on dit vas-y, c'est à toi.
Ben oui, on ne fait pas les choses à moitié. Vous venez de publier, vous André, Sur les routes de la musique, une coédition France Inter. C'est un recueil de chroniques qui seront diffusées cet été sur France Inter dans la matinale. Et l'une de ces chroniques est consacrée à Beethoven. Vous êtes d'accord sur l'analyse d'Eric Orsenna, Beethoven qui n'a jamais vu la mer et qui l'a décrit avec ses notes merveilleusement bien?
Ben, c'est surtout, comme je pense à l'image de la mer, c'est un mélange de moments de tension et de moments tellement noirs avec tout d'un coup des moments de paix. C'est ça qui est fabuleux chez Beethoven, c'est ces accords de diminuer comme ça. Et puis qui vont... tout d'un coup vers des moments de paix absolue, c'est le premier, je dirais, à être aussi contrasté. Et en ça, bah, c'est voilà, quand vous allez vous balader en mer, vous savez jamais comment ça se passe. Tout d'un coup, vous partez par beau temps, puis vient un temps au loin, quelques nuages. Et je crois que c'est ça, chez Beethoven, l'alternance de contrastes qui sont... c'est des vrais vertiges émotionnels, quoi.
Vous l'avez compris, hein, il est avec son piano. Oui. André ne se déplace jamais sans son piano. Donc il l'a sous le coude et à tout moment, il peut dégainer des notes. Eric Orsenna, on découvre en vous lisant que la vie personnelle de Beethoven est jalonnée de drames.
Ce qui est intéressant, passionnant, parce que bon, je le connaissais par ce que m'en avait dit des amis musiciens, mais c'est que peu d'êtres humains ont eu à affronter autant d'épreuves. Un père violent, alcoolique, sans argent, des maladies perpétuelles, dont quand même la plus incroyable, c'est celle de la sourdité. Le manque d'argent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur, rappelons-le, parce que ça pourrait revenir, rappelons-le.
Ouais.
Et donc, d'ailleurs, on va fêter les 400 ans de La Fontaine. Eh bien, La Fontaine, il n'avait pas un rond, alors que c'était un triomphe absolu. Et donc, et en même temps, c'est une période passionnante parce que c'est le moment de toutes les espérances. C'est un moment où l'Allemagne n'existe pas. Il y a des petites principautés qui sont très en avance sur la France en termes de liberté. Et puis, il y a 1789 et ces principautés disent enfin, les Français nous rattrapent. Et puis, il y a la terreur. Décidément, ces Français sont fous. Et puis, on espère en Bonaparte. Et puis, Bonaparte devient Napoléon. Et moi, je rappelle un truc que j'ai appris qui m'a complètement sidéré, c'est que dans la grande armée qui va jusqu'à Moscou, il y a 30 000 mercenaires allemands et 3 000 seulement reviendront du froid. 30 000, c'est ça. Mmh. Donc, c'est à la fois lui-même, la période et l'instrument. Puisqu'on passe, mais toi, tu sais ça bien mieux que moi, André, c'est que c'est le passage de clavecin au piano forte et piano forte. Et d'amélioration en amélioration, on arrive dans la nuance qui permet justement ce moment maritime. Et quand on voit, je sais pas, la 32e sonate qui commence par un petit arietta tout tranquille, et on finit dans le ragtime. Parce que c'est ça l'affaire à la fin.
C'est du métal.
Moi, je dirais que Beethoven, c'est aussi le premier qui va commencer à parler de lui-même. Ouais. Avant lui, Mozart, quand vous vous baladez et que vous écoutez Mozart dans une forêt, vous entendez la beauté du monde. Mozart, il fait que se balader sur l'accord parfait majeur. C'est-à-dire, avec très peu de notes, il va dire des choses de dingue. Mozart, c'est vraiment la beauté de la nature. Avant lui, Bach, c'est il fait de la musique pour Dieu, ouais. C'est Dieu en musique. Après Mozart, c'est la nature dans tout ce qu'il y a de beauté. Et Beethoven, c'est le premier qui va peut-être parler de ses hémorroïdes. Enfin, si je dis ça, c'est-à-dire de lui, de ses souffrances personnelles.
Ah oui, c'est mieux
et
comme ça.
Voilà, c'est ça.
Si je peux me permettre, on est aujourd'hui dans le festival des mots.
Ouais, bah oui, alors choisissez les mieux, s'il vous plaît, parce que là, vous l'avez pas forcément très servi. À l'époque, pour se faire connaître, il est impératif de voyager. Évidemment, encore, on peut pas faire ça de sa chambre avec YouTube ou je ne sais quel réseau. Et dès ses 13 ans, le père de Beethoven envoie le petit Ludwig en Hollande avec sa mère. C'est une scène qui vous a ému, qui vous a touché, Orsena.
Ah, mais aux larmes, parce que c'est, imaginez, le père a peint un rond. Il envoie sa femme malade, tuberculeuse, mélancolique, et son petit garçon, il l'envoie à Hollande pour faire ce qu'on appelait des tournées de virtuosité. Ça ne va pas marcher, mais imaginez ce que c'est. Il y a des lettres qui restent de cette description. Ils sont sur le Rhin en novembre. Et le petit Beethoven est mort de froid et il se blottit contre sa mère malade. Et c'est ça aussi. Et pour ça, j'avais hésité avec un autre titre, c'était un génie fraternel, parce qu'il est tellement loin de nous en étant le génie, et tellement proche, parce que ce qu'il endure comme épreuve à chaque fois, c'est pire que toutes nos épreuves nous-mêmes. Donc il est à la fois le plus loin et le plus près.
Et puis il y a un autre voyage, alors un peu plus tard, à 17 ans, Beethoven part pour Vienne, hein, il vit à Bonn, ouais. Il part pour Vienne rencontrer Mozart, qu'il admire terriblement. Et ce qui est intéressant là, c'est que Eric Orsena et vous, André Manoukian, vous racontez cette rencontre, mais pas exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'Eric Orsena, vous restez assez prudent, disant on ne sait pas trop comment ça s'est passé, il y a des légendes, alors que vous, André Manoukian, vous racontez comme si vous y étiez, cette rencontre entre
Parce
Mozart
que pour une et raison Beethoven. Précise, c'est que moi je suis musicologue et lui romancier.
Alors, ça change tout. André, vous qui y étiez, comment s'est passée cette rencontre entre Beethoven et Mozart?
Alors, on dit la même chose, Eric et moi, c'est-à-dire que, en gros, il y a un sponsor qui est très riche, qui se balade à Bonn, qui entend le jeune Beethoven qui a 17 ans, qui lui dit « Tu peux pas rester ici, mon gamin, faut que je t'emmène, tu vas faire ton casting à la Nouvelle Star, il faut que t'ailles à Vienne. » C'est qui la star de l'époque? C'est Mozart. Et ce sponsor en question arrose tous les musiciens. Comme vient de le rappeler Eric, on est tous dans la dèche. Et Mozart voit débarquer le vieux avec le gamin. Il dit « Oh, flûte la corvée !» Parce que lui, il est en train de jouer aux cartes avec des potes et deux, trois filles de joie. Parce que ça se passe comme ça aussi, ouais. Quand même. On est assez joyeux, il faut le dire. Donc Mozart, il prend le gamin, il va dans son KGB, il y a le petit pianoforte, il lui dit « Bon, allez, vas-y, joue-moi ce que tu as à me jouer. » Beethoven a préparé son morceau depuis 2 mois. C'est le moment de sa vie. Et nous, on a un truc en musique, c'est que quand on joue quelque chose et que les gens sont pas à l'écoute, on trébuche avec les notes. Il y a un truc qui se passe mal. Et Beethoven sent que Mozart, on n'a rien à péter du morceau qu'il est en train de jouer. Il dit « Ok, c'est foutu pour moi ». Et tout d'un coup, il a un éclair de génie. À la fin, il dit à Mozart « Jouez-moi un petit thème et j'improviserai ». Alors Mozart lui jette quelques notes comme ça. Et Beethoven prend ça et voilà ce qu'il en fait. Bon, il fait
tous les romanciers ne peuvent pas faire ça.
Il y a quelques hémorroïdes quand même.
Il fait à peu près ça. Et du coup, Mozart, là, il en prend plein la figure. Ouais. Parce que, je veux dire, et c'est là tout le génie de Beethoven, c'était sa capacité à improviser. Il ouvre la porte, il dit à ses potes, écoutez ce nom, Beethoven, le monde entier, on entendra parler.
Et on entendra parler jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, et pour en savoir plus, eh bien, il faut lire ce livre d'Eric Orsena, La Passion de la Fraternité, Beethoven, aux éditions Stock Fayard. Un grand merci à vous aussi, Yann Kefelec. Votre récit de la vie de Florence Artaud, La mer et au-delà, est paru aux éditions Kalman-Lévy. André Manoukian, vous restez avec nous pour la deuxième heure de ce bivouac spécial. Nous partirons sur les routes de la musique avec vous tout à l'heure. Et avant, nous explorerons un autre univers que vous aimez, celui de la montagne. Deux autres amoureux de la montagne vont nous rejoindre, les écrivains Jean-Christophe Ruffin et Stéphanie Baudet. À tout de suite.